With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut tout le monde, bienvenue dans ce 311e podcast, c'est pas facile à dire, le 311e podcast de Touchdown Actu. C'est Raoul Villeroy qui est au micro cette semaine. Je suis accompagné de Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut, salut à tous.
On reprend la tradition des t-shirts en hiver, c'est ça?
Ouais, je me suis senti défié la semaine dernière en m'en reprochant la chemise, alors du coup, j'ai fait le t-shirt.
Et on est évidemment avec Camille Sarabène à la technique. Salut Camille.
Salut.
L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris sportifs sur la NFL, avec cette année la nouveauté, vous le savez, de pouvoir regarder les matchs en direct depuis la plateforme Unibet si vous avez un compte actif. Au programme cette semaine, un choc en Californie, un choc à Londres et un choc en bas du classement. Les pronos, ouais, beaucoup de chocs. Les pronos, les meilleures cotes, le programme, c'est le programme de la semaine. On en voit juste après le jingle. Alors dans les trois chocs de la semaine, on a quand même choisi le plus glamour, à savoir le choc de la Californie entre les Los Angeles Rams qui sont à 3 victoires, 2 défaites et les San Francisco 49ers, 4 victoires, 0 défaites, toujours invaincus. Les deux équipes invaincues en NFL, Raphaël, ce sont les Patriots et les San Francisco 49ers, les deux quarterbacks qui étaient entraînés par Bill Belichick, incroyable.
Ouais, sans doute un signe du destin.
Tout est lié.
On n'aurait pas forcément parié ça pour les 49ers à l'intersaison, pré-saison, qui démarre aussi bien.
Blague à part, tu connais le bilan de Garoppolo titulaire chez les Niners?
Bah, il doit être plutôt bon, hein, parce que quand il s'est blessé, derrière, c'est là où ils enchaînaient. Je ne sais pas, peut-être un 10-2.
Tu l'as lu sur mes fiches?
Non.
Tu es très très fort, c'est exactement ça. 10-2.
Non, mais je savais que c'était à peu près dans ces eaux-là.
Rating de 99-4, 7 touchdowns, 4 interceptions cette saison. C'est plus que raisonnable. Il y a eu un match un peu compliqué. Oui. C'était face aux Steelers, je crois. Mais sinon c'était 3 bonnes victoires. Est-ce qu'on les voit? Alors, ouais, c'est ça, j'ai ma question. J'anticipe. Ils ont battu les Bengals, ouais, les Buccaneers, les Browns et les Steelers, donc.
Voilà.
Est-ce que du coup, on les voit pas un peu trop beaux, vu que l'opposition n'était pas forcément ce qui se fait de mieux en NFL?
Je sais pas si on les voit trop beaux. Je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir des doutes dessus, mais pour eux, c'est un vrai test. Voilà, là, c'est le match de division face à l'équipe qui est en finale l'an dernier, face à des Rams qui se cherchent en plus un peu, mais c'est important pour les 49ers d'aller chercher ce match. Ils ont des armes intéressantes, leur pass rush qui est assez efficace, on l'a vu la semaine dernière avec Nick Bosa face à une ligne offensive des Rams qu'on critique beaucoup depuis le début de saison, qui ont des gros problèmes avec cette ligne offensive, avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. C'est un des match-ups à suivre, faut que Goff ait le temps de lancer.
Il faut qu'il fasse gaffe parce que il y a DeForest Buckner certes et Nick Bosa qui sort d'une très bonne semaine, Richard Sherman aussi fait une bonne saison avec les Niners, donc même s'il lance vite, attention de ne pas se faire récupérer un petit ballon.
Non c'est sûr, ils ont des atouts, ils ont ce jeu au sol, même si là les récentes blessures du fullback et de McGinchley le tackle du côté de San Francisco, ça m'inquiète un peu pour imposer le jeu au sol sans ce fullback, sans ce tackle de nouveau. Mais ils ont des armes intéressantes. Après, je trouve quand même qu'il y a du répondant côté Rams.
Tu anticipes bien aujourd'hui, j'adore la dynamique.
J'anticipe, hein, mais...
Tu veux que je te donne des petites billes? La défense en face, Clay Matthews, déjà 6 sacks cette saison. Il y a Aaron Donald qui est un incontournable. Corey Littleton qui a réussi 2 interceptions face aux 49ers lors des 2 matchs l'an dernier. Donc attention. Il y a le rookie aussi, Troy Reader, qui est un linebacker également, qui sort 13 plaquages face aux Seahawks la semaine dernière et qui était leader de son équipe cette statistique. Donc il y a du monde aussi en défense côté des Rams.
Il y a du monde côté Rams en défense. Ils ont eu un match très compliqué face aux Buccaneers il y a 2 semaines. Mais contre les Seahawks, malgré tout, ils se reprennent plutôt bien. Oui, il y a 30 points, mais c'est un match où vraiment les deux équipes jouent bien en attaque, ça se répond. Donc on peut comprendre un peu qu'elle encaisse des points. Et puis c'est une défense qui est toujours capable de créer un turnover. Elle, c'est plutôt ça, son style, c'est j'encaisse des yards, mais je vais créer le turnover, l'action décisive qui va changer le cours du match. Je pense qu'elle en est capable. Et moi, surtout, là où je pense qu'il y a une vraie différence pour les Rams, c'est quand même le match-up entre les cibles des Rams Et les cornerbacks de San Francisco, tu dis Sherman a fait un bon début de saison, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a Robert Woods, Brandon Cooks, Cooper Kupp à contenir, et je pense notamment que la clé, c'est Cooper Kupp, se balader dans les intervalles, sur les slants, tout ça. Et j'en fais un peu mon gros facteur X. Un bon match de Cooper Kupp fera gagner, à mon avis, les Rams. Mais...
Ok. Est-ce que tu penses, alors avant d'aller sur l'attaque, est-ce que déjà on peut avoir un match un peu serré défensivement, dans la mesure où en plus les Niners, c'est la deuxième défense de la ligue en termes de yards? C'est vrai que sur le papier, on ne s'attend pas forcément à ça de la part de deux équipes qui sont plutôt flashy d'habitude. Mais est-ce que déjà, en défense, il y a moyen que les deux quarterbacks soient obligés de se battre pour aller chercher ce qu'il faut?
Je pense qu'effectivement, les deux quarterbacks vont devoir se battre. On l'a évoqué, mais les lignes offensives des deux, entre les blessures et les rookies d'un côté, ou en tout cas les jeunes joueurs deuxième année pour le coup des Rams, m'inquiètent un peu face à des pass rush qui ont du potentiel.
Ouais.
Tu l'as rappelé. Donc, va falloir aller gagner ses yards. Ça peut être, oui, ça peut être plus défensif que ce que beaucoup attendraient, effectivement.
Alors, passons côté offensif maintenant. Déjà, pour les coureurs, on a d'un côté Matt Breida et Tevin Coleman. Plutôt Breida qui est numéro 1, mais Coleman qui fait un bon support.
Ouais.
Et en face, évidemment, l'inévitable Todd Gurley. Les deux, d'ailleurs, Breida et Gurley, ils ont marqué 2 touchdowns la semaine dernière. Et sache-le, San Francisco est la meilleure équipe de la ligue au sol.
Ouais.
200 yards en moyenne par match. Tu disais tout à l'heure, le factor X, c'est Cooper Kupp. Est-ce que le factor X, ça peut être... moi, j'ai envie de croire que c'est limite l'inverse. La force des Rams, c'est plutôt les airs, et la force des Niners, c'est le sol. Pour moi, le factor X, c'est l'équipe qui arrive à mieux jouer sur la force de l'autre. Donc, les Rams au sol et les Niners dans les airs. Est-ce que sur ce match-up-là, il y en a un qui a ton avantage?
Sur ce match-up-là, si je devais donner l'avantage à l'un, j'irais quand même plutôt vers les Rams, parce que je pense que Todd Gurley peut encore sortir des bons matchs. Il a été un peu pas forcément bien utilisé jusque-là ou pas assez. Ça dépend. Je suis un peu plus sceptique sur le jeu aérien des 49ers, qui en dehors de Greg Kittle...
Ouais.
Leur tight end, ça manque quand même de un ou deux. Il y a des jeunes receveurs, hein, donc ils ont le temps d'émerger. Mais voilà, si Kittle est bien couvert, j'ai un peu peur que pour Garoppolo, ce soit compliqué. Si le sol se met à pas marcher, enfin, bon, je donnerais peut-être l'avantage aux Rams pour le coup. Et j'ai vu une stat intéressante. McVay est à 10 victoires pour une défaite. Quand il a plus d'une semaine pour préparer le match suivant.
C'est pas mal. Ah oui, parce qu'ils ont joué...
ils ont joué jeudi dernier.
Jeudi avant, ouais.
Donc il a une dizaine de matchs. Il est à 10-1, sa seule défaite étant contre Bill Belichick.
Évidemment,
voilà,
le maître.
Ce qui est
acceptable.
Ce qui peut être intéressant du coup à voir.
C'est vrai, c'est vrai qu'on l'avait vu, hein, McVay, qui est une espèce de machine à retenir tous les jeux qu'il a déjà appelés dans tous ses matchs. Tu parlais de George Kittle, c'est le meilleur receveur, effectivement, en termes de yards côté San Francisco, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle quand c'est ton tight end, ton meilleur receveur. C'est que 235 yards depuis le début de la saison. Ça manque probablement de profondeur et d'un
c'est
gros
ça.
Playmaker. Et je suis d'accord avec toi que face à cette défense des Rams, ça va être difficile de briller beaucoup dans les airs pour les Niners. Donc pour tous ces éléments-là, j'ai tendance à croire que Los Angeles peut remporter ce match.
Ouais, moi j'y vais avec les Rams. Hein.
Allez, on y va avec les Rams. Voilà pour la preview du choc de la semaine en Californie. On va passer à toutes les autres affiches et aux pronostics. Je fais un petit sourire satisfait en parlant évidemment des pronostics, puisque les scores actuels, parlons-en. La semaine dernière, Alain a fait un petit 7, Camille et Raphaël ont fait 8, Greg a fait 9 et j'ai repris un point d'avance avec un joli 10 tout rond. Ce qui donne au total Camille à 41, Alain à 43, Raphaël à 44, Greg à 47 et Raoul à 51. Et il n'y a plus le petit jingle de Samba, j'en suis bien triste. Je dirais que c'est avant tout le talent. Non, je dirais que c'est avant tout la chance sur plein de matchs qui sont passés à ça. Mais tant mieux, il faut la provoquer. Et ben voilà, j'en suis très content. J'en profite tant que ça dure. New England Patriots, on va entamer les matchs de la semaine avec celui de ce soir si vous nous regardez, hier soir si vous nous regardez vendredi, ce soir si vous nous regardez jeudi, vous avez compris ce que je voulais dire. New England Patriots, 5 victoires, 0 défaites. New York Giants, 2 victoires, 3 défaites cette nuit. Donc à 2h20 du matin, le remake des fameux Super Bowl 42 et 46.
Voilà, c'est à peu près tout.
C'est tout ce qu'on pouvait dire pour les Giants. 34 points encaissés en 5 matchs par les Patriots. À ton avis, Raphaël, combien de points les Giants peuvent-ils inscrire dans ce match?
Eh ben, vraiment pas beaucoup, peut-être 10.
Ce serait déjà incroyable.
Parce que au-delà de ce que peut faire leur quarterback rookie Daniel Jones, il faut rappeler que sur ce match-là, il va être privé de ses deux coureurs, dont notamment Barkley, de ses deux meilleurs receveurs, Shepard et Tate, et de son tight end numéro 1, Evan Engram. Donc à partir de là,
plus personne.
Il reste quand même pas grand monde à qui lancer la balle. Il faut qu'en plus sa ligne offensive tienne face à des Jimmy Collins dans la forme de sa vie, des Kyle Von Noy dans la forme de sa vie. Voilà, si déjà ils arrivent à mettre 10 points, ouais, franchement, ça sera pas trop mal. Hein.
Est-ce qu'à la mi-temps, on fait sortir les titulaires côté Patriots? Est-ce qu'on fait rentrer Eli Manning surtout?
C'est pas
ça,
trop la
question.
Mentalité côté Patriots, mais ils pourraient le faire suivant le résultat. Ouais, pourquoi pas faire rentrer Eli Manning
pour l'histoire.
Rigoler un peu.
Bah ouais.
Non, mais c'est un match que les Patriots doivent dominer largement. Largement de A à Z, donc Patriots.
Patriots, pour moi aussi, si vous voulez mettre un billet sur les Giants, à mon avis, il y a de l'argent à se faire, mais ce n'est pas recommandé, on en parlera tout à l'heure. Le match de Londres, dimanche à 15h30, tu y seras, Raphaël.
Tout à fait.
Entre les Tampa Bay Buccaneers, 2 victoires, 3 défaites, les Carolina Panthers, 3 victoires, 2 défaites. Un match de division, c'est plutôt sympa de la part de la NFL de nous en envoyer. Et finalement, Kyle Allen, pas mal. Non mais en vrai, bon alors, attends,
ouais,
pas d'interception en 3 matchs,
oui.
3 victoires, bien portées par Christian McCaffrey,
voilà.
Très bien portées. Voilà. Attention, Christian McCaffrey qui ne s'est pas entraîné cette semaine.
Je pense qu'il se repose un peu à force de faire 270 yards par match, il a peut-être besoin d'un jour de repos
en
de plus
avec
que les
le
autres.
En plus avec le voyage, bon
ouais, je suis pas...
On n'est pas inquiet, mais
non.
À savoir, peut-être surveiller ça arrivant à Londres.
Si jamais
surveiller,
il venait à ne pas être présent, oui, ça changerait beaucoup de choses. Mais...
Côté Buccaneers, quels peuvent être les motifs d'encouragement? Goodwin et Evans à la réception, Shaquille Barrett et ses 9 sacs, qui est leader de la ligue.
Le motif d'espoir, c'est que ces deux équipes se sont déjà affrontées en semaine 2. Les Buccaneers l'avaient remporté en muselant Christian McCaffrey. Ils sont les seuls à l'avoir fait sur ce match-là. En tout cas, ils l'avaient forcé à 2,9 yards de portée par portée. S'ils arrivent à nouveau à museler Christian McCaffrey, tous les espoirs sont permis. Hein.
Oui.
Mais il faut le faire. Après, en dehors de ça, ça sera compliqué. Ou alors, un Jameis Winston en feu.
Ça arrive.
Ça arrive. On l'a vu contre les Rams, il met 50 points. La semaine d'après, il ne fait rien. Bon, bah, c'est Jameis Winston.
C'est frustrant.
On ne sait jamais. On sait jamais.
Ouais. Tu prends qui? Citation.
Je vais aller sur les Panthers. Leur défense aussi est bien depuis 3 semaines aux Panthers. Oui. On a peu parlé, mais elle va mieux. Donc allez, les Panthers.
Je vais prendre les Panthers aussi. Bon match à vous si vous allez à Londres. Vous verrez peut-être Raphaël dans les tribunes. Et suivez bien, évidemment, Touchdown Actu sur tous les réseaux sociaux. Il y aura plein de contenu exclusif, rien que pour vous. On enchaîne avec les matchs de dimanche à 19h. Le premier, attention, il y a du rêve
oh là là,
à vendre entre les Miami Dolphins, 0 victoire 4 défaites, et les Washington Redskins. 0 victoire, 5 défaites, c'est terrible. Il y a eu des mèmes qui sont passés sur internet, le Tanking Bowl, où tu voyais deux chars d'assaut se rentrer aux couleurs des deux équipes l'un dans l'autre. Bon, pas grand chose à dire. Et en même temps, j'ai envie de croire que la magie de la NFL peut nous offrir un match absolument inattendu.
C'est vrai.
Où les deux sont tellement nuls qu'en fait, tout est possible.
C'est vrai. Les Redskins vont commencer avec un nouveau coach,
ouais,
vu que Gruden a été viré cette semaine.
C'est Bill Callahan qui le remplace, ancien coach des Raiders d'ailleurs.
Ouais, qui était actuellement leur coordinateur offensif.
Ligne offensive,
bon, qui est promu rapidement.
Oui.
Bon, après, c'est de l'intérim pour le moment, je pense que ça sera que de l'intérim. Mais nouveau coach, Case Keenum revient à la tête de l'équipe.
Grande nouvelle.
Mine de rien, les Redskins font un match pas trop mauvais en défense la semaine dernière contre les Patriots. Ils font une très belle première mi-temps défensivement, ce qui peut faire peur pour l'attaque des Dolphins qui ne produit rien depuis le début de la saison.
Oui.
Mais les Dolphins sortent d'une bye week. Non, mais c'est du 50-50. Ça peut, t'as raison, ça peut faire quelque chose.
Dans
final,
le 50-50, tu prends qui, toi?
50-50, je vais aller sur les Redskins parce que leur défense, mais... les Dolphins le gagnent, que ça me choquerait pas.
Moi j'ai pris Dolphins, j'avoue, pour la bye week. Je me suis arrêté là à la réflexion. J'ai pas essayé de faire plus compliqué. Minnesota Vikings, 3 victoires de défaite. Philadelphia Eagles, 3 victoires de défaite. C'est un joli match ça quand même.
Ouais.
La semaine dernière, les Eagles ont mis 10 sacks et 2 touchdowns défensifs. C'est un record en NFL, sache-le. Meilleure ligne que les Jets hein, cette fois-ci par contre en face. Mais est-ce que Cousins doit s'inquiéter de ce qui peut lui arriver dessus?
Ouais, oui, forcément, il doit s'inquiéter parce que le pass rush des Eagles avant le match de la semaine dernière était sous-performé. Là, il a surperformé.
Un peu.
Mais je pense que ça peut être un peu entre les deux, disons. Cousins peut être inquiet, surtout si son jeu au sol ne s'impose pas. On l'a vu, quand Dalvin Cook ne marche pas, c'est un peu plus compliqué pour Kirk Cousins.
C'est mieux quand il court.
Et la défense des Eagles est bonne contre la course depuis le début de saison, donc c'est vraiment un match-up intéressant, une nouvelle fois clé du côté de Minnesota. Et de l'autre côté, c'est aussi intéressant, la défense des Vikings est bonne depuis le début de la saison. L'attaque des Eagles, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire. Un coup, c'est va. Bon, le jeu au sol des Eagles aussi. Match serré, je pense, hein, plus
et
intéressant.
Et match qui peut déjà, je pense, très loin, mais en vrai, ces deux équipes
très
qui peuvent
sur la wild card.
Ouais, exactement. Près wild card dans l'NFC, ils gagneront probablement pas leur division, ou alors ça va être dur et les places vont être chères. Ça peut jouer dans un tie-breaker entre ces deux-là, donc attention à ne pas le perdre.
C'est vraiment important. Ouais.
Est-ce que de celui qui fera le meilleur match entre David Cook ou Zach Ertz fera gagner son équipe, tu penses?
Ouais,
c'est clairement
surtout,
les gros points forts.
Surtout
hein.
pour Cook, moi je pense vraiment, je pense que si Cook arrive à faire plus de 100 yards à la course, ça sera match gagné pour les, pour les Vikings. Donc voilà. Mais ceci étant, je vais quand même aller vers les Eagles.
D'accord.
Ils sont à l'extérieur, mais je pense que la semaine dernière, ils ont commencé à trouver un début de solution en donnant un peu plus de ballon au sol à Jordan Howard. Plutôt qu'au rookie Sanders. Je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Et.
Allez. Pourquoi pas. Voilà. Moi, ce sera les Vikings parce que je veux bien croire que Cook marche et surtout je suis assez impressionné aussi par le front seven des Vikings qui est très impressionnant et dont on parle peu pour l'instant, mais ça va peut-être venir. Kansas City Chiefs 4 victoires 1 défaite. Houston Texans 3 victoires 2 défaites. Défaite surprise des Chiefs face aux Colts la semaine dernière. Ils vont vouloir repartir de l'avant. Alors attention quand même aux Texans qui viennent de claquer un gros 53 points, je crois, aux Falcons. Il y a des playmakers un peu partout du côté des Texans et c'est peut-être ce qui peut faire peur, dans toute proportion gardée, aux Chiefs. C'est pas facile. En fait, moi, ce qui me rassure pour les Chiefs, c'est qu'ils viennent de perdre un match. S'ils n'avaient pas perdu la semaine dernière, j'aurais pu croire qu'ils chutent là, mais je les vois mal perdre deux fois d'affilée.
Ouais, et en même temps, j'attends un peu de savoir aussi l'état des blessés côté Chiefs. On les a vus la semaine dernière en cours de match. Ils ont perdu Chris Jones sur la ligne défensive, qui est quand même leur meilleur joueur à ce niveau-là. Ils ont perdu sur la ligne offensive leur garde gauche, leur left tackle. Sammy Watkins et Tyreek Hill, on ne sait pas s'ils joueront. En tout cas, Tyreek Hill, c'est sûr. Watkins, on ne sait pas. Ils sont un peu amoindris. Mahomes a sorti le match un peu en boitillant, a fini le match contre les Colts. C'est un peu un match piège face à une équipe des Texans qui peut être totalement explosive si Watson a le temps.
Oui.
Ça pourrait aller très très haut dans le scoring ce match pour le coup.
Clairement.
Bon, je vais aller sur les Chiefs parce que Mahomes, parce qu'ils sont à la maison.
Oui. C'est dur de pronostiquer contre eux.
Mais attention.
Il va falloir être sérieux. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Match piège pour les Chiefs et deux défaites d'affilée, ce serait un peu un petit coup d'arrêt quand même.
Ouais.
Jacksonville Jaguars, 2 victoires, 3 défaites. New Orleans Saints, 4 victoires, 1 défaite. Finalement, pas si mal, nos petits QB remplaçants entre Garner Minshew et Teddy Bridgewater. Tu prends qui, toi, comme ça, hors de l'équipe?
Plutôt vers Bridgewater pour le moment, mais Minshew, on n'a quand même pas assez de recul, je trouve, encore pour le.
Ouais,
plutôt Bridgewater, mais bon.
Alors, il y a quand même deux grosses défenses dans ce match, hein. Même si celle des Jaguars a un peu du mal à provoquer les turnovers. Seulement une interception et un fumble recouvert cette saison.
De toute façon, celle des Jaguars, on l'a vu, les matchs où Jalen Ramsey était là, l'ensemble était bon. Mm. Quand il n'était pas là, ça devient plus compliqué tout de suite. A priori, il pourrait jouer cette semaine. Il pourrait se redécider
S'il n'a pas un autre enfant qui doit naître.
Ce qui est intéressant, moi je trouve que c'est un match qui peut être serré, qui peut être piégeant un peu pour les Saints, hein, quand même, parce qu'il y a quelques arguments du côté des Jaguars.
L'attaque des Saints, c'est quand même plus complète.
Il y a une cible numéro 1 en Michael Thomas incroyable. Il y a Alvin Kamara qui est une des meilleures armes. Et d'ailleurs, Kamara a un peu le profil de McCaffrey. La semaine dernière, McCaffrey en met 200 aux Jaguars. si Kamara arrive à les dominer de la même manière, le match va être rapidement, ça va être assez facile, rapidement ouais. plié. Je vais aller vers les Saints pour ça.
Moi aussi.
Mais attention, je pense oui. que c'est peut-être pas si facile que
c'est
ça.
C'est pas gagné d'avance, ouais. mais en faisant ce qu'il faut, ça va le faire. Cleveland Browns, 2 victoires, 3 défaites. Seattle Seahawks, 4 victoires, 1 défaite. On parle pas beaucoup des Seahawks. Hein. J'ai l'impression qu'ils avancent un peu sous le radar, alors qu'ils sortent un gros match face aux Rams. Et par rapport aux années précédentes, où les débuts de saison sont un peu difficiles, et en fin de saison, tu veux plus ouais. les jouer, là, ils sont déjà aux premières places.
Ouais.
Russell Wilson, premier en termes de touchdown lancé en NFL avec 12. Il y a un gros apport aussi de Jadeveon Clowney avec un fumble forcé et recouvert la semaine dernière. Attention à cette équipe des Seahawks quand même.
Oui, 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 ils ont des bonnes armes. Taylor Lockett à la réception, ils ont cette capacité à imposer toujours un peu de jeu au sol aussi quand il faut.
Ouais.
Après, il y a encore quelques lacunes qui ont fait, à mon avis, pas une équipe au top.
La ligne offensive, peut-être.
La ligne offensive. Moi, les cornerbacks, je suis vraiment sceptique.
Ah, mais devant, c'est solide.
Oui, devant, c'est solide. Par contre, les cornerbacks, je suis sceptique. Et là, face à Jarvis Landry, Odell Beckham, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Mais d'un autre côté, Cleveland est tellement à la ramasse depuis le début de saison, bah, notamment son dernier match. Comme tu l'as dit, cette ligne défensive des Seahawks, à mon avis, face à la ligne offensive des Browns, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Je vais aller avec Seattle. Mais Russell Wilson aura un peu de taf, je pense.
Ouais, il va toujours. Lui, de toute façon, il a toujours un peu de taf. Oui, hein, c'est ça qu'il aime bien,
taf, c'est vrai,
survivre,
c'est
se battre pour sa survie. Justement, Odell Beckham, toi qui l'avais bien suivi à son époque new-yorkaise, qu'est-ce que t'en penses côté Browns?
Il est pas dans ses hauts standards, il est correct sans plus. Mais en même temps, c'est toujours
Pardon.
Pareil. Là, depuis le début de saison, toute l'attaque des Browns galère tellement entre la ligne offensive, Baker Mayfield. Que bon, il est à l'image un peu de son équipe.
Ouais.
Quoi.
Il s'est adapté.
Oui, il s'adapte très bien.
C'est
ouais,
c'est
ça.
Et est-ce que c'est déjà foutu pour la division, pour les Browns? On leur promettait un peu en début de saison, mais
non,
en fait, finalement, les Ravens galèrent un peu.
C'est foutu parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a que 2 victoires d'écart, ce qui est jamais.
Les Ravens ont 3 victoires, 2 défaites, et les Browns ont 2 victoires, 3
oui,
défaites.
Donc, il n'y en a même qu'une seule. Ils ont gagné le premier match contre les Ravens. C'est pas foutu, mais je pense qu'il faut pas trop tarder à relancer la machine.
On est d'accord, je vais prendre aussi les Seahawks. Justement, les Ravens, 3 victoires, 2 défaites face aux Bengals, 0 victoire, 5 défaites. Quand on perd face aux Cardinals, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des Bengals?
Pas grand-chose. Hein. On voit que la défense est en difficulté, l'attaque en difficulté.
Ouais.
Les Ravens, à mon avis, vont courir, et voilà.
Baltimore, c'est la 3e attaque de la Ligue. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est vrai. Et tout à l'heure, je disais Wilson, 12 touchdowns. C'est 11 touchdowns pour Lamar running back Jackson. C'est quand même loin d'être moche. C'est un match que Baltimore doit gagner assez facilement avec ses forces. Et même la défense côté Baltimore est solide, donc elle devrait limiter ce qu'il
doit se réveiller. Elle a fait son dernier match était un peu poussif, mais
je me souviens plus face à qui c'était.
Steelers.
Ouais. C'est les rivalités de division. T'es toujours
oui,
un peu.
Oui, oui, bon. Bien sûr. Ouais.
Normalement, ça devrait aller mieux pour se relancer. Los Angeles Rams, 3 victoires, 2 défaites. 49ers, 4 victoires, 0 défaites. C'est dimanche à 22h05. On en a parlé. On prend tous les deux les Rams.
C'est ça.
Ensuite, Arizona Cardinals, 1 victoire, 3 défaites, 1 nul. Atlanta Falcons, 1 victoire, 4 défaites. Tout à l'heure, je me moquais un peu de Redskins Dolphins comme match, mais celui-là, il est quand même pas hyper glamour non plus.
Il est pas glamour.
Comment tu convaincrais quelqu'un de le regarder?
Voir les progrès du jeune Kyler Murray, quarterback rookie à la tête des Cardinals.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, parce que les Falcons sont en déperdition totale. C'est triste parce que par rapport en termes d'effectifs, ils doivent faire mieux qu'un 1-4.
Ils sont bien mieux que ce qu'ils valent, ouais.
Du coup, même pour eux, ce match-là pourrait presque être un piège. Enfin, je veux dire, face à un jeune quarterback qui a tout à prouver.
C'est compliqué. Hein.
Je vais aller sur les Falcons, mais...
Moi aussi. D'autant que David Johnson ne s'est pas entraîné chez les Cardinals.
Ouais.
Il est incertain. Ils prendront la décision dimanche. S'il n'y a pas David Johnson et que les Falcons arrivent à perdre ce match, ce sera compliqué.
Ouais.
Évidemment, Grégory Richard a parié sur les Cardinals. Hein. C'est obligatoire. New York Jets, 0 victoire, 4 défaites. Dallas Cowboys, 3 victoires, 2 défaites. C'est dimanche à 22h25. Alors, j'ai trouvé une petite stat, puisque la NFL, comme c'est la 100e année, nous envoie des stats historiques. Et figure-toi que donc, la semaine dernière, les Jets, ils ont pris 10 sacks. En 1987, les Cowboys, ils avaient passé 11 sacks face aux Jets.
Non,
est-ce qu'ils peuvent le refaire cette semaine?
Non, je crois
ils ont
pas.
Peut-être
parce
pas
que
les playmakers
en plus,
pour.
Sauf erreur de ma part, là, c'est Sam Darnold qui revient à la tête.
Oui, normalement,
de
Darnold
l'équipe.
Joue.
Je pense que Darnold joue un peu mieux la pression dans sa poche que Luke Falk. Voilà, je pense que du coup Darnold va être capable d'éviter un ou deux sacs que Luke Falk n'aurait peut-être pas évité.
Donc seulement 8.
Ouais, 5-6, allez, 5-6 face à ce pas. Mais il y a peu de choses à espérer pour les Jets.
Ah bah
sur
non,
ce
mais
match,
c'est, hein, c'est la malédiction d'Alain Mattei qui les frappe de plein fouet là. Leur saison est malheureusement foutue.
Et Dallas doit se relancer après deux défaites.
Oui, donc, mais qui est quand même 452 yards par match, Dallas. Hein. Oui, première attaque de la ligue, c'est quand même pas mal. Et, bon, deux défaites effectivement, mais dans une division aussi chaotique que la leur, ils devraient s'en sortir.
Oui.
Denver Broncos, une victoire, 4 défaites. Tennessee Titans, 2 victoires, 3 défaites. Je ne vais pas mentir, j'ai écrit. Pff.
Ah là là.
Que dire,
ouais, ouais, bah.
Que dire. Si même. Si, si, alors quand même, les Titans ont concédé qu'un seul turnover cette saison.
C'est
Mariota, c'est le seul quarterback qui a joué tous les matchs sans faire d'interception.
Ah oui, mais là, si tu veux relancer le débat Mariota, on va. Wilson aussi n'a pas fait d'interception.
Mais alors moi,
par contre, il a peut-être eu un fumble au Russell.
Ah, il a, pardon, oui, excuse-moi, c'est le seul qui a pas perdu de ballon.
Ouais, c'est ça.
Ni fumble ni interception.
On va pas relancer le débat Mariota, sinon
Mariota est-il aussi fort que Wilson?
On en a pour 15 minutes dans cette émission.
Ah non, on dépasse plus le timing.
Parce que je pense que la stat qui dit que Mariota a pas d'interception soit, mais on lui demande de rien faire, il fait rien, donc forcément il va pas perdre de ballon.
On lui demande de pas perdre de ballon.
Ouais, ouais. Enfin bon, des fois c'est bien d'aller gagner des matchs aussi.
aussi.
Bon, bref, autre débat. C'est pas le match le plus flashy. Après, on a une bonne
le
défense.
Le plus quoi
de... Flashy.
Ah oui, j'ai pas du tout compris ça. Ok.
On a une bonne défense de Tennessee.
Oui.
Qui provoque des turnovers. On a une équipe de Denver qui est mieux depuis deux semaines, qui a enfin gagné la semaine dernière.
Face aux Chargers, bravo.
Je pense que Denver, à la maison, a la clé du match si leur jeu au sol s'impose.
Alors, ce que j'allais dire, le jeu au sol, c'est peut-être la clé côté, côté Denver, mais...
Dans aussi Tennessee, côté, hein, d'ailleurs.
Tennessee, ça peut être un match un peu très serré en défense, jeu au sol, jeu au sol de partout, et puis on voit qui gagne.
Clairement, ça peut être ça. Je vais aller sur Tennessee parce que je crois un peu plus en eux.
Moi aussi. Mais on a tout pareil depuis 50, tout à 50, l'heure comme match
Non.
Ah non, t'as peut-être pris les Redskins.
Oui,
ouais,
tout
c'est
à
ça.
Fait.
Okay. Le match de dimanche soir, le Sunday Night Football à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Los Angeles Chargers, 2 victoires, 3 défaites. Pittsburgh Steelers, 1 victoire, 4 défaites. Alors, qui va être quarterback du côté des Steelers? Est-ce que c'est Devlin Hodges? Est-ce que c'est Paxton Lynch qui revient du practice squad?
Ça
va pas être facile.
Ça va pas être facile, c'est sûr. Face à une bonne défense aérienne, surtout des Chargers, parce que autant au sol, c'est critiquable la défense, autant la défense aérienne reste à un bon niveau. Donc ça va être très compliqué pour le quarterback qui sera nommé par les Steelers. Bon, après la défense des Steelers, en revanche, a de quoi embêter
Rivers. Motif d'espoir, ils ont 12 ballons volés cette saison et les Chargers ne sont pas forcément reconnus pour être.
Avec le ballon.
Ouais, précautionneux, oui, c'est exactement le mot que je cherchais.
Des Chargers qui viennent de perdre Pouncey, leur centre.
Ouais, probablement pour la saison, voire plus.
Donc pourrait y avoir quelques sacs sur Philip Rivers, clairement.
Après, Rivers, c'est pas forcément ce qui me dérange qu'il prenne des sacs, c'est surtout qu'il lance des interceptions
dans
la red zone qui m'embête. Mais bon.
Bon, ça peut être un match un peu moche.
Ouais,
en
ça peut être moche.
Balle.
Peut-être un peu piège aussi. Après, c'est un Sunday Night Football dans un mini-stade. Je suis surpris d'ailleurs que les Chargers aient un Sunday Night Football dans leur stade tout petit, mais bon, tant mieux. J'ose espérer que Rivers va faire un peu mieux que les Steelers vont aligner. Quoi.
Je vais aller sur les Chargers parce que d'un côté, on a Rivers face à on ne sait pas qui, on va dire, en termes de quarterback. Mais
Le jeu au sol peut aussi être normalement meilleur côté Chargers.
Attention.
Mais de toute façon, avec les Chargers, faites toujours attention.
Oui, voilà. Oui,
et enfin, Green Bay Packers, 4 victoires, 1 défaite. Detroit Lions, 2 victoires, 1 défaite, 1 nul dans la nuit de lundi à mardi. C'est le Monday Night Football. Toutes les équipes NFC Nord sont en bilan positif.
Ouais.
Puisque les Packers sont à 4-1, les Lions 2-1-1, on vient de le dire. Et les deux autres, les Vikings et les Bears, sont à 3 victoires, 2 défaites. C'est la première fois depuis 2012 que ça arrive et la NFC West. Et cette année-là, les 49ers étaient allés au Super Bowl. Est-ce qu'il y a une équipe de NFC Nord au Super Bowl cette année? Pardon, c'est la première fois en semaine 6. Hein. C'est pas la première fois.
Oui, peut-être.
Bah, si c'est une des 4, c'est les Packers a priori.
Ouais.
Ou les Vikings.
tranquille.
Ouais, je suis pas.
Allez, plutôt Packers. Bon, toujours est-il que les Packers viennent de battre les Cowboys, qui étaient plutôt chauds. Aaron Jones a marqué 8 touchdowns au sol. C'est le premier marqueur de touchdowns au sol.
La semaine dernière, déjà, ça gonfle la
stat. Mais c'est quand même le premier.
C'est un match plus intéressant parce que les Lions avaient. Donc là, ils étaient en bye week la semaine dernière. Ouais. Mais la semaine d'avant, ils avaient été très bons contre les Chiefs, notamment. On les avait laissés, ils perdent, mais de peu. On les avait laissés sur une bonne dynamique.
Et avant, c'était nul première semaine et deux victoires d'affilée.
Ils ont un bon. L'équipe est sur les bonnes rails. Après, le problème, c'est que là, les Packers, je trouve, ont sorti une vraie prestation costaud face aux Cowboys de A à Z.
Bah, c'est ça.
Du coup, je vais aller vers Green Bay parce qu'ils paraissent plus solides sur le moment. Mais je pense que c'est un vrai match sympa à regarder, plutôt intéressant. Ouais.
Puis, rivalité de NFC Nord, c'est toujours aussi, des matchs qui sont assez rigolos à chaque fois. Pareil avec les Vikings et les Bears. Je vais prendre les Packers aussi parce que quand je sais pas trop, je vais sur le meilleur quarterback et quand bien même j'ai beaucoup de respect pour Matthew Stafford, je pense que Aaron Rodgers est un meilleur quarterback. Au repos cette semaine, 4 équipes, les Bills, les Bears, les Colts et les Raiders. Voilà pour les pronos et les matchs de la semaine. On va tout de suite passer aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Vous connaissez le principe, 3 cotes et un voilà, 3 cotes pour un, comment on appelle ça déjà,
un combiné.
Merci. Qui avais-tu choisi, Raphaël?
Eh ben écoute, je vais partir sur les Seahawks Seattle, ils sont à 1,70, un Russell Wilson en mode MVP face à une équipe des Browns qui se cherche. Allons-y, quoi.
En mode MVP, oui, c'est vrai. Fais la moue, mais en fait, c'est vrai qu'il peut. Même si, moi, McCaffrey pense, j'ai l'impression, est un peu plus en avance. Moi, je prends les Saints à 1,88 qui jouent, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié les Jaguars, oui, j'ai un autre quarterback rookie. Parce qu'il y a plein de bonnes choses du côté des Saints, notamment toutes les armes offensives dont on a parlé tout à l'heure et une défense qui est peut-être un peu plus consistante en ce moment. Certes, chez les Jaguars, mais ça devrait quand même le faire. Les Saints à 1,88. Et en troisième cote, on vous a choisi les Titans. Alors, c'est un match qui ne va pas forcément être glamour, mais qui, côté Titans, on est propre avec le ballon. Il y a un petit risque. La cote est à 1,95, mais bon, les Broncos, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Et Derrick Henry peut être la clé qui fait gagner les Titans, donc pourquoi pas. Ces trois cotes-là, les Seahawks à 1,70, les Saints à 1,88 et les Titans à 1,95, ça vous fait un combiné total pour 10 euros misés. Vous pouvez gagner 62,32 €, c'est ce qui est marqué sur sur l'écran de Camille, donc je suis dans les clous. Le YOLO, bien sûr, vous connaissez le principe. On garde les trois cotes Seahawks, Saints, Titans et on en rajoute trois qui sont plutôt
assez intéressantes,
plutôt juteuses et pas complètement folles en plus.
Ah ouais,
donc attention parce que pour une fois le YOLO peut-être passer.
C'est presque ces trois-là ont presque plus de chances d'arriver que les trois premières, tu vois.
Peut-être. On a pris les Texans. Les Texans à 2,45. Alors oui, c'est une grosse cote, mais il y a que des équipes à l'extérieur.
Contre les Chiefs, faut le dire.
Contre les Chiefs, oui. Mais on l'a dit tout à l'heure, de la casse côté Chiefs, des playmakers côté Texans, ça peut le faire, 2,45. Les 49ers, qui sont toujours invaincus et qui jouent les Rams, qui ont connu des hauts et des bas. Les 49ers, ils sont à 2,25.
C'est ça.
Et on a pris en troisième les Eagles, qui jouent les Vikings, pareil, à l'extérieur, d'où les cotes un peu plus importantes, à 2,20. Bon, pareil, voilà. C'est des matchs qui sont pas aberrants. On n'a pas pris les Dolphins.
Les Dolphins face aux Redskins, on aurait presque pu.
On n'a pas pris les Cardinals, quoi.
Enfin, sauf les Cardinals.
Ça aurait pu. Bon, c'est vrai que la NFL, tout est possible. Mais donc, Seattle, New Orleans, Philadelphie, Houston, San Francisco et Tennessee pour 10 euros misés. Vous avez un total de 830,35 € de gains potentiels. Moi, je serais vous. Écoutez, pourquoi pas.
Ouais, vous pouvez nous payer un coup à boire après.
Ah oui, si ça marche, on veut évidemment une pinte. Voilà pour les cotes chez notre partenaire Unibet. Et voilà pour l'épisode 311. C'est ainsi qu'il se termine, Raphaël. Merci de nous avoir suivis. Merci, Raphaël, d'avoir été avec moi.
Merci à toi.
Merci, Camille, à la technique, comme toujours, imparable. Pour la suite, c'est, vous avez l'habitude, dimanche prochain, le fauteuil avec Alain Mattei. Mardi, le débrief. Dimanche, donc, tu seras avec
Sébastien Allon,
qui retourne à Londres.
Londres.
On va essayer de vous faire un petit live depuis le stade.
Oui, parce que c'est 15h30.
C'est ça, comme c'est 15h30, on va peut-être essayer de vous animer ça à la sortie du repas à 14h, de vous faire un petit truc sympa.
Ouais. Donc 15h30 heure française, si vous êtes là-bas, évidemment, c'est 14h30. Ne vous pointez pas une heure en retard au match. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre à TouchdownActu. Il y aura aussi des choses là-dessus, j'imagine, ce week-end. Sur Instagram, c'est TDActu sur Twitter, pardon. Et TouchdownActu sur Instagram.
C'est ça.
N'inversez pas. T'as Instagram, Raphaël ? Vous allez mettre des petits trucs sur Instagram ?
Ouais, on va essayer.
Comme ça. Raphaël, d'ailleurs, qui est sur Twitter aussi, @Raphaël_TDA. Camille, c'est @CamilleSarabène. Moi, c'est @RaoulVDG. L'émission du jeudi qui vous est présentée, on vous l'a dit, par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Et cette année, n'oubliez pas, les matchs en direct depuis le site d'Unibet. Profitez-en. Merci encore une fois. Et puis, bon match, bon déplacement pour ceux qui vont à Londres. Et à la semaine prochaine. Bisous.
Ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.